depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative lance un voyage organisé 3B à Banyuwangi. Le ministre coordinateur de PMK a déclaré que l'éducation à la préparation aux catastrophes peut se faire par l'art. La Russie et la Chine organisent des exercices conjoints en mer du Japon. Une enquête de IMD indique que le classement de la compétitivité ressources humaines de l'Indonésie est au troisième rang de l'ASEAN. Au Japon, 20 personnes seraient coincées dans des tunnels à cause de glissements de terrain. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a lancé samedi le forfait touristique 3B, à savoir Banyuwangi, Bali de l'Ouest, Bali du Nord, dans la région de Banyuwangi, Java de l'Est. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a expliqué que le forfait touristique 3B offrait une combinaison d'un riche potentiel touristique dans trois zones de destination touristique, à savoir Banyuwangi, Bali de l'Ouest et Bali du Nord. Le ministre Sandiaga a déclaré que le forfait touristique 3B faisait également partie du soutien au tourisme international de Banyuwangi. Sandiaga a déclaré que le lancement du forfait 3B à la fin de septembre 2024 avait été réalisé pour accueillir la longue période des vacances à la fin d'année. Il est optimiste que le voyage organisé qui relie Banyuwangi à Bali du Nord et Bali de l'Ouest deviendra une attraction pour les touristes étrangers tels que les touristes chinois et taïwanais. Le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a déclaré que l'éducation du public pour qu'il soit prêt à faire face au risque des catastrophes peut se faire non seulement par des étapes tactiques, mais aussi par des approches artistiques et créatives. Cité par Antara, lors de l'événement Malam Puncak Penganugerahan Tangguh Award 2024 à Jakarta, samedi, il a déclaré que l'Indonésie se trouve dans la zone du cercle de feu, une route qui entoure le bassin du Pacifique et est le centre de l'activité volcanique dans le monde. Le long de cette route, il y a environ 450 volcans, dont 127 en Indonésie. Selon lui, cette condition géographique fait de l'Indonésie un pays à haut risque de catastrophes naturelles, notamment dû à l'activité volcano-tectonique. Pour cela, selon lui, le peuple indonésien doit continuer à être éduqué pour qu'il soit réellement conscient qu'il n'a pas d'autre choix que d'être positif, proactif et anticipant toutes les formes de catastrophes qui pourraient survenir à tout moment. Les militaires russes et chinois ont commencé samedi à mener des exercices militaires navals conjoints dans la mer du Japon. Cité par Antara à Jakarta, dans un communiqué, la section de presse de la flotte russe du Pacifique a déclaré qu'un groupe de navires de guerre conjoints de la flotte du Pacifique et de la marine chinoise ont quitté la ville de Vladivostok pour mener à bien l'opération conjointe russo-chinoise Beibu ou Interaction 2024. Avant de quitter la base, les militaires ont participé à une cérémonie d'ouverture à laquelle ont également assisté les commandants militaires des deux pays. L'exercice conjoint durera une semaine et les militaires des deux pays réaliseront des simulations sur la manière de repousser les attaques ennemies venant de l'air, de la mer et de l'environnement sous-marin. En outre, l'équipage du navire effectuera également des tirs d'artillerie et une série d'exercices de combat utilisant des armes anti-aériennes et anti-sous-marines. L'Institut international pour le développement de la gestion, ou IMD, a déclaré que le niveau de compétitivité des compétences en ressources humaines de l'Indonésie se situe au troisième rang dans l'ASEAN devant la Thaïlande et les Philippines. Cité par Antara à Jakarta samedi, le directeur du Centre de compétitivité mondiale de IMD, Arturo Bres, a déclaré que l'enquête avait été réalisée basée sur le niveau de capacité et d'expertise de la main-d'œuvre d'un pays à pourvoir de nouveaux postes vacants et de la manière dont l'entreprise peut développer les compétences des employés existants. Selon lui, s'il est classé à l'échelle mondiale, le classement de la compétitivité en ressources humaines de l'Indonésie en 2024 sera en 46e position sur 67 pays étudiés en combinant 31 données statistiques et réponses à l'enquête regroupées en trois indicateurs, à savoir le niveau d'investissement et de développement des talents, la préparation des ressources humaines et la capacité d'un pays à attirer des talents étrangers. En outre, a-t-il ajouté, afin d'accroître la compétitivité des ressources humaines en Indonésie, le gouvernement doit améliorer deux choses, à savoir l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers entrants et l'augmentation du programme international d'évaluation des étudiants et la nécessité de prêter attention à la budgétisation de l'éducation des étudiants reste faible. L'agence de presse japonaise Kyodo a rapporté samedi qu'une personne était morte et que 20 autres étaient coincés dans un tunnel à la suite d'un glissement de terrain provoqué par les fortes pluies dans la préfecture d'Ishikawa au Japon. Le tunnel de la ville côtière de Wajima a été endommagé par le tremblement de terre du 1er janvier qui a détruit Wajima et la ville voisine de Suzu. Cité par Antara Jakarta, Kyodo a déclaré que plus de 10 personnes étaient portées disparues à Wajima après que de fortes pluies ont frappé la préfecture. Environ 44 500 habitants de ville de Wajima, Suzu et Noto ont été priés d'évacuer après que des pluies d'une intensité de plus de 11,8 pouces ont frappé Wajima tout au long de la journée. Pendant ce temps, la ville de Suzu a également enregistré plus de 7,8 pouces de pluie. Outre les glissements de terrain, les pluies ont également provoqué le débordement de ces rivières de la préfecture d'Ishikawa. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le ministre du droit et des droits de l'homme » a déclaré que le projet de loi sur l'immigration était une forme d'optimisation du respect de la souveraineté indonésienne. Le ministre du Droit et des Droits de l'Homme, Supratman Andi Aktas, a déclaré que le projet de loi sur l'immigration fait partie de la réalisation de l'optimisation du respect de la souveraineté territoriale de la République d'Indonésie. Lors de la réunion plénière dans la salle de réunion plénière du DPRRI, complexe parlementaire Senayan Jakarta jeudi, Supratman a déclaré que le troisième amendement à la loi numéro 6 de 2011 concernant l'immigration était important pour optimiser la mise en œuvre du secteur de l'immigration. Selon lui, cette optimisation passe par le renforcement du secteur de l'immigration pour qu'il puisse remplir ses fonctions de fourniture de services d'immigration, d'application de la loi, de sécurité de l'État et de facilitation du développement du bien-être communautaire. Le ministre du Droit et des Droits de l'Homme a expliqué que les développements scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines des transports et des communications, ont eu un impact significatif sur la facilité des mobilités des personnes d'un pays à l'autre. D'un autre côté, les distances entre les pays se rapprochent également et les frontières s'effacent. Il convient donc de réagir rapidement et de manière appropriée à ces conditions en fonction de l'évolution de la science et de la technologie, y compris l'optimisation des réglementations légales. Supratman a ajouté que le projet de loi sur l'immigration était également une réponse au renforcement de la Direction générale de l'immigration, notamment en ce qui concerne la protection personnelle, les raisons pour lesquelles les personnes refusent de quitter le territoire indonésien, les délais de prévention et les sources de financement. En effet, la mobilité des personnes entre les pays crée des risques et des menaces de plus en plus diversifiées. De plus, le projet de loi sur l'immigration est considéré comme conforme à l'esprit de création d'un climat d'investissement de qualité. Dans ce cas, la politique d'immigration est importante pour attirer les investisseurs, les talents de classe mondiale et les touristes étrangers. Selon le ministre du Droit et des Droits de l'Homme, il y a au moins 5 renforcements dans ce projet de loi sur la migration. Premièrement, renforcer les installations et les infrastructures pour mettre en œuvre les fonctions d'immigration dans les domaines de l'application de la loi et de la sécurité de l'État. Deuxièmement, les réglementations concernant les documents de voyage pour la République d'Indonésie qui peuvent constituer une preuve de nationalité indonésienne. Troisièmement, la confirmation des règles d'immigration pour rejeter les personnes souhaitant quitter le territoire indonésien. Quatrièmement, l'affirmation de la fonction de l'immigration dans le domaine de la prévention. Et cinquièmement, la synergie dans la mise en œuvre de la collecte de données sur les étrangers hébergés sur le territoire indonésien. La 7e réunion plénière du DPRRI pour la session 1 de l'année 2024 à 2045 a approuvé le projet de loi sur l'immigration. Ensuite, le projet de loi sur l'immigration sera soumis au président de la République d'Indonésie pour être ratifié et pour devenir la loi.
Terbentang katulistiwa di situ ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta kita Indonesia sesungguhnya.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 septembre. On commence par le 22 septembre 1949. L'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. Le projet de bombe atomique soviétique était un programme secret de recherche et de développement autorisé par Joseph Staline en Union soviétique pour développer la faisabilité des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet de bombe atomique de l'Union soviétique était un programme secret de recherche et de développement de bombes atomiques qui a été plus tard autorisé par Joseph Staline. Ce programme a été lancé en réponse au rapport recueilli par le service des renseignements soviétiques aux États-Unis dans le cadre du projet Manhattan. Le projet Manhattan était le programme secret américain derrière les attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 septembre 1958, la naissance d'Andrea Bocelli. Andrea Bocelli est le chanteur ténor le plus populaire au monde et l'artiste classique le plus vendu de tous les temps. Il est né à l'Adriatico, près de Pise, en Italie, le 22 septembre 1958. Dès son plus jeune âge, il souffrait de glaucome congénital. Bocelli a enregistré cet opéra complet et de nombreux albums pop et classiques vendus à 65 millions d'exemplaires dans le monde. Le 22 septembre 2018, la statue Garuda Wisnu Kencana à Bali a été inaugurée après 28 ans de travaux. La statue Garuda Wisnu Kencana est une statue de 122 mètres de haut située dans le parc culturel Garuda Wisnu Kencana à Bali, en Indonésie. Conçue par Inyoman Nuarta et inaugurée en septembre 2018. La hauteur totale de la statue, y compris la base de 46 mètres de haut, est de 122 mètres. Cette statue a été conçue pour être la plus haute statue d'Indonésie et a été inspirée par un événement enraciné dans l'hindouisme selon lequel Garuda recherchait Tirtha Amrita, l'élixir de vie. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée PBSI modifiera la voie d'entrée pour les athlètes d'entraînement national. Le président général de l'Association de badminton d'Indonésie, One Indonesian Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, ou abréviation PBSI, Fadil Imran, a déclaré qu'il souhaitait imiter les mesures prises par l'entraîneur de l'équipe nationale indonésienne à l'âge de 20 ans, Indra Shafri, dans la sélection des joueurs de l'équipe nationale de football en modifiant le parcours des joueurs de badminton vers la formation nationale. Ce plan fera en sorte que le parcours d'accès à la formation nationale ne se limite plus à la sélection nationale organisée au début d'année. L'espoir est que des joueurs de badminton potentiels émergeront qui ne sont peut-être pas sur le radar national. Dans le football, Indra fait souvent cela. En tant qu'entraîneur de Batangkapa Sumatra de l'Ouest, il aime se rendre dans les régions à la recherche de footballeurs talentueux qui ne passent pas inaperçus. Fadli, après avoir assisté à la finale de badminton pour les numéros individuels de la 21e Semaine nationale des sports d'Aceh-Sumatra du Nord au PON 2024 à Gor PBSI de Sumatra du Nord, Deli Serdang, a déclaré jeudi qu'à l'avenir, son plan en tant que président général élu de PBSI modifierait la réglementation. Ce recrutement d'athlètes de formation nationale ne provient pas uniquement de la sélection nationale organisée à la fin d'année. Cela peut provenir de la recherche de talents, de découvreurs de talents ou de l'observation du développement régional. Une autre méthode qui sera utilisée consiste également à donner de l'espace au circuit national pour montrer où les points sont bien classés. Ce plan, a déclaré Fadil, vise à rendre plus uniforme l'entrée à la formation nationale afin que les athlètes potentiels qui échouent à la sélection nationale pour plusieurs facteurs puissent continuer à occuper la formation nationale avec d'autres voies d'entrée. Grâce au nouveau système, a déclaré Fadil, cela encouragerait également davantage PBSI dans chaque province à travailler dur pour développer les athlètes dans leur région respective. Du point de vue de l'athlète, ce plan a été bien accueilli par le vainqueur de l'or en simple masculin PON 2024, Richie Duta Ricardo, qui estime que le nouveau système fonctionnera de manière plus équitable. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta kau. bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les éditeurs de Voice of Indonesia emploient d'être le nom d'une plage. Sanur est également le nom d'un sous-district du district de Denpasar du Sud, la ville de Denpasar. Dans ce sous-district, on trouve plusieurs plages enchanteresses, comme la plage de Semawang Sanur. Cette plage, située à Banjar Semawang, n'a pas de grosses vagues, donc on peut profiter en se relaxant pendant les vacances à Bali. Chers auditeurs, la plage de Semawang a des vagues calmes qui rendent le rivage suffisamment sûr pour être utilisé comme aire de jeu, y compris pour les enfants. Mais il faut cependant être prudent. Cette plage a également du sable blanc et propre afin que les touristes puissent s'y asseoir et s'y détendre confortablement. Vous pouvez également pratiquer divers sports nautiques comme le canoë, le snorkeling et la plongée sous-marine. La beauté sous-marine surprend vraiment les touristes qui peuvent donc voir librement divers récifs coralliens et petits poissons sous l'eau de mer. Les vagues calmes facilitent les jeux des touristes. Outre les sports nautiques, cette plage convient également comme lieu de pratique des sports terrestres tels que le jogging et le cyclisme. Ne vous inquiétez pas car il y a des locations de vélo ici. Et ce qui est encore plus intéressant, car cette plage se trouve sur la côte est de Bali, cette plage est donc idéale pour admirer une très belle vue sur le lever du soleil. « très facile d'atteindre la plage de Semawang, qui est située sur la rue Kusumasari Sanur, Denpasar du Sud, la ville de Denpasar, Bali. Les touristes qui viennent à Bali depuis l'aéroport Ngurah Rai peuvent se rendre directement à la plage qui se trouve à seulement 30 minutes environ. Les diverses installations fournies autour de la plage de Semawang, telles que des belvédères, la location de canoës, la location de bateaux, des toilettes, des salles de prière ainsi qu'un grand parking, font de la plage de Semawang une destination très visitée par les touristes nationaux et étrangers. La plage de Semawang, avec sa beauté et son charme enchanteur, peut être utilisée comme lieu de vacances pour s'éloigner de l'agitation quotidienne. Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. Le Les auditeurs de Voice of Indonesia, l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « Woman from Rhode Island » représente l'Indonésie aux Oscars 2024. Le film intitulé « Woman from Rhode Island » représentera l'Indonésie aux Oscars 2024. « Woman from Rhode Island » a été sélectionné par le comité indonésien de sélection des Oscars pour avancer dans la catégorie d'International Feature Film. « Woman from Rhode Island » est le meilleur film du Festival du film indonésien 2023. Ce film est également inclus dans plusieurs festivals de films mondiaux tels que le Festival du film de New York, le Festival du film asiatique de Da Nang et le Festival de Cannes. La 97e cérémonie des Oscars aura lieu le 2 mars 2025, diffusée en direct depuis le Dolby Theatre d'Ovation Hollywood à Los Angeles, Californie, États-Unis, en plus de 200 territoires à travers le monde. Auparavant, 16 titres de films indonésiens avaient été sélectionnés par le comité depuis le début du mois. Le comité indonésien de sélection des Oscars lui-même a été formé par la direction de l'Association indonésienne des sociétés cinématographiques ou en indonésien Persatuan Perusahaan Film Indonesia ou abréviation PPFI et a été accrédité par Academy of Motion Picture, Art and Science ou abréviation AMPAS. L'équipe d'observateurs composée de Deddy Mizwar, César David Lukmansyah, Edwin Nazir, Gary Nugroho, Ilham Bintang, Ratna Rian Tiarno, Slamet Raharjo, Torsi Argeswara et Widjawati a eu des discussions étroites sur les 16 titres de films indonésiens enregistrés. Ce film raconte de la mère expérience de Martha, une travailleuse migrante illégale, finalement rapatriée de Sabah en Malaisie. Le retour de Martha à la maison a été une joie pour la famille, en particulier pour Orpa et Berthe. Mais Martha rentre sans aucun résultat, après avoir travaillé pendant 12 ans dans le pays voisin. Martha a en fait souffert d'une grave dépression parce qu'elle a été violée dans la plantation où elle travaillait comme ouvrière pour l'huile de palme. Woman from Rhode Island met en vedette Linda Doe, Irma Rihi, Salim Ratuke, Van Jo, Putri Suarez, Boy Leonard, Orpa Padaleti Boling, et bien d'autres.
Terselip nama di dalam doa lewat radio. Sebuah tembang pilihan, semoga bisa meredam segala kerinduan.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson de Lala Huta. Lala Huta est un groupe pop qui a débuté sa carrière en 2013 en jouant de la musique de café en café. Enfin, en 2018, ils ont sorti leur premier single intitulé Tunggu Apa Lagi pour marquer leur incursion dans une carrière professionnelle de musicien. Par ce premier single, le nom de Lala Huta commence à se faire connaître du grand public. Après cela, ils ont continué à travailler jusqu'à ce qu'ils produisent d'autres singles à succès tels que Buat Apa Mencoba en 2019, 1, 2, 3 et Radar en 2023. En mai 2024, ils ont de nouveau sorti leur nouveau œuvre en présentant Kevin Widaya comme leur nouveau chanteur qui a immédiatement fourni le chant de la chanson Aku Bertahan. Par la sortie officielle, la présence de Kevin complète la formation de Lala Huta et mènera le nouveau voyage du groupe. Pendant ce temps, les autres membres sont toujours dirigés par Bonnie Eko, Alan Hizkia et Beno Loululia, qui étaient là auparavant. La chanson Aku Bertahan a déjà été popularisée par le soliste Rio Febrian, sortie en 2008. La version de Lala Huta de Aku Bertahan donne une touche différente, mais donne toujours une belle sensation à la chanson. Raconte de quelqu'un qui veut rester dans une relation, même si son partenaire veut rester à l'écart et mettre fin à la relation. Bon, chers auditeurs, voici Lala Huta, dont le titre est Aku Bertahan. Bonne écoute!
Perasaanmu kepadaku sedih saat kau tak yakin kepadaku akan cintaku jalan berliku takkan membuatku menyerah akan cinta kita. Tatap mataku dan kau akan tahu semuanya yang ku rasakan. Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu. Sering kau coba untuk mematikan hatiku. Takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan
Tuhan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk membunuh cintaku, yang aku tahu kau hanya untukku.
Indonesia.
satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu
quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.